psychothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des ruptures de l'existence et vous avez participé à un livre qui a pour titre « Quand la mort éclaire la vie ». La mort, c'est un sujet sur lequel vous avez déjà beaucoup écrit. Alors première question, Christophe Forêt, à quoi bon fêter les morts ?
Fêter les morts, en fait, c'est prolonger le lien d'amour, en fait, d'affection qui nous a reliés à ces personnes, parce qu'on a été transformés, façonnés par le fait d'avoir vécu et aimé ces personnes-là. Et ce qu'ils ont transformé en nous se perdure à travers le temps. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre du souvenir, mais peut-être aussi de l'ordre de la gratitude d'avoir été transformé par le fait d'avoir été en relation avec elles. Donc il y a quelque chose vraiment qui est d'une continuité, s'inscrire dans le temps et aussi dans la transmission.
Fêter les morts, c'est une certaine manière rassurer les vivants.
D'une certaine manière, c'est aussi rendre hommage, rassurer les vivants aussi sur le fait qu'on n'oublie pas. Beaucoup de personnes en deuil ont vraiment la grande angoisse qu'on oublie les personnes aimées. D'ailleurs, ils ont besoin qu'on mentionne leur nom, leur prénom. Et donc, ça permet de garder les vivants de façon saine, je dirais, adaptée dans le courant de son existence.
Comment vous allez célébrer vos morts, vous, aujourd'hui, Christophe Forêt ?
J'ai un petit rituel. Moi, c'est mes parents, une photo de mes parents avec une bougie que je fais brûler dans la soirée, et je leur parle à voix haute comme s'ils étaient là, en partageant les choses très très douces et très douces et profondes de ma journée ou de ma vie. C'est ce petit rituel là que je fais.
Dans nos sociétés, la mort est souvent perçue comme un sujet tabou. Parler de la mort à la radio à 7h14 du matin,
oui,
ça semble peu réjouissant. Mais pourquoi,
ouais.
Pourquoi est-ce qu'évoquer la mort, ça peut mettre mal à l'aise, Christophe Forêt, chez nous ?
Ça met mal à l'aise parce que la mort est vécue comme réellement, d'ailleurs, la fin de tous les efforts pour mener une vie, pour réaliser des projets de vie, pour être dans la construction. Et la mort, comme elle préfigure, l'arrêt brutal de tout ce qu'on a essayé de construire, soit soi-même, soit en famille. Donc il y a vraiment cette interruption brutale et quelque chose qui est légitimement redouté. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens ont ce déni de la mort, parce que ils ne veulent pas voir tout ce qu'ils sont en train de construire être aussi brutalement arrêté, bien sûr.
Mais vous y pensez sans cesse à la mort. Vous écrivez « Être conscient que la mort peut survenir d'un instant à l'autre est mon plus grand moteur de vie, Christophe Forêt. »
Et
vous le dites avec le sourire.
Oui, on se rend compte en fait que s'affranchir, ou du moins cheminer vers la réduction de la peur de la mort, vous savez quoi, ça réduit la peur de la vie. Hein. C'est vraiment ensemble. Quand on sait que cette vie va s'arrêter, elle devient d'autant plus précieuse, d'autant plus riche de sens. Et en fait, oui, comme quelque chose qui a une durée déterminée, on va se dire, ok, comment au maximum on peut la rendre plus belle, plus profonde, plus utile pour soi-même et aussi pour les autres. Donc il y a vraiment quelque chose de très vivant dans le fait d'être conscient de la mort, au contraire.
Christophe Forêt, vous accompagnez pas mal de personnes en fin de vie, et demain sort aussi votre nouveau livre « Cette vie est au-delà », c'est chez Albin Michel. Il y est question de ce qu'on appelle des expériences de mort imminente, des expériences de fin de vie, et de notre conscience. La conscience,
oui, tout à fait, oui,
qui ne serait peut-être pas qu'une simple production de notre cerveau. C'est ce que vous révélez dans ce nouveau texte.
Effectivement, ce livre, « Cette vie au-delà », le sous-titre, c'est « Enquête sur la continuité de la conscience après la mort ». Alors, ce n'est pas du tout de l'ordre d'une croyance. C'est un livre qui compile, des études anglo-saxonnes très poussées, très sérieuses, je dirais, sur tous ces phénomènes, effectivement, d'expérience de mort imminente, de perception de personnes décédées. Et tout ça, j'étais étonné de voir combien c'est extrêmement étudié, et cela donne une dimension à l'approche de la mort, à l'étude de la mort, une dimension extrêmement étonnante, extrêmement lumineuse, et ça ouvre, je dirais, au lieu de s'opposer à la science, au contraire, ça ouvre un champ d'expérimentation de la science qui, pour l'instant, postule que la conscience n'est que le produit du cerveau. Or, cette expérience, ces données qui se cumulent au fil des décennies, semblent montrer que la conscience n'est pas dépendante de la l'activité neuronale, de l'activité du cerveau. Et donc, c'est vraiment, ça ouvre un champ absolument passionnant qui en fait rejoint toutes les intuitions de toute la spiritualité depuis la nuit des temps. Mais là, vraiment, on l'aborde d'une manière scientifique, avec des protocoles scientifiques, et c'est ça qui en fait vraiment un intérêt vraiment étonnant.
Ça veut dire que la conscience ne meurt peut-être pas en même temps que notre corps, c'est ça, Christophe?
Exactement, c'est ce qui semble être démontré par ces études et par toutes ces personnes qui ont fait des expériences de mort imminente ou les autres expériences que je décris dans ce livre, c'est qu'il y a une continuité de la conscience après la mort physique et il y a une persistance d'une conscience. Par exemple, des personnes qui, au cours d'une intervention chirurgicale, ont une NDE, une expérience de mort imminente et qui sont en mesure de décrire parfaitement à 98% de détails précis et exactement ce qui s'est passé, soit dans le lieu de l'opération chirurgicale, soit même dans des lieux qui ne sont pas là où sont leur corps, des proches dans les couloirs ou d'autres circonstances qui sont loin
de
leur corps.
Ce ne sont pas des
hallucinations. Mais pas du tout, parce que les hallucinations présupposent un cerveau fonctionnel. Or, leur cerveau, et c'est parfois mesuré par les électroencéphalogrammes, ne produit aucune activité. Il faut un cerveau fonctionnel pour avoir des hallucinations. Or, le cerveau, là, n'est pas fonctionnel. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des hallucinations. C'est bien, bien autre chose. Et il y a plein de faisceaux d'arguments qui vont dans le sens de... absolument pas dans le sens d'une hallucination. Il y a clairement quelque chose d'autre, et c'est pour ça qu'il faut vraiment développer des protocoles scientifiques pour explorer, ramasser le plus de témoignages possible, parce que quand on converge on fait converger tous les témoignages, il y a véritablement un sujet. Et en fait, quand on parle aux personnes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont des témoignages. Alors, ils ne savent pas dans quelle case les mettre, mais si on était dans des pays anglo-saxons, on aurait beaucoup plus de référentiels. C'est la grande différence entre la connaissance francophone et la connaissance anglo-saxonne. Les francophones lisent très peu les études anglophones, alors qu'il y a une masse de connaissances extrêmement sérieuses qui permettent de se faire vraiment soi-même son opinion. On n'est plus dans la croyance du tout, on est dans l'accumulation de faits scientifiques qui semblent contredire le postulat actuel qui dit que la conscience est le produit du cerveau, et ces faits disent que non, ça montre qu'il y a quelque chose et qu'il faudrait travailler à ce changement de postulat pour le rendre plus en phase avec les expérimentations humaines qui sont apportées de façon régulière depuis des décennies. On n'est plus du tout dans l'anecdote maintenant, il y a vraiment des dizaines, des centaines de milliers de témoignages qui vont dans ce sens-là, donc étudions-les. C'est vraiment un appel à encore plus de science dans ce secteur-là.
Et c'est à découvrir dans votre nouvel essai donc, qui sort demain, autre livre, Quand la mort éclaire la vie, ça c'est le titre du livre auquel vous contribuez et qui vient de sortir à l'Iconoclaste. Merci beaucoup, Christophe.